Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, français et fier de l'être. Cela a commencé sur Internet et cela a commencé par le drapeau. Quelques heures à peine après les attentats de Paris du 13 novembre, c'est une immense vague bleu-blanc-rouge qui a recouvert la toile, mais aussi les plus grands monuments de la planète, de la porte de Brandebourg à Berlin à la statue du Christ Rédempteur de Rio, en passant par la mairie de Sydney ou encore la gare de Bombay. Face au terrorisme, c'est dans les couleurs de la France que le monde lui exprime son soutien. Unanimité mondiale dans le choix d'un symbole qui représente une nation, mais aussi une histoire, celle de la Révolution française et des droits de l'homme. En France également, on a vu des jeunes aux terrasses enveloppés du drapeau national, des Marseillaises chanter haut et fort, des hashtags fiers d'être français postés sur les réseaux sociaux, un événement en soi, paraît-il. Le drapeau français, une valeur refuge, nous dit un sondage publié hier dans Le Parisien. Et pourtant, les Parisiens, les Français, n'ont pas toujours eu un rapport très apaisé avec la mère patrie. Depuis plusieurs jours, des voix s'élèvent pour exprimer un malaise, voire un désaccord devant tant de signes extérieurs de patriotisme. Trop guerrière, la Marseillaise, aujourd'hui trop associée à l'extrême droite, le drapeau. L'union et la compassion, oui, mais pas par amour pour la nation, disent-ils. Alors français et fier de l'être, c'est notre sujet du jour. Et ils sont trois invités pour en discuter ce soir, à commencer par vous Noël Mamère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Bègles et vous êtes député écologiste de Gironde. Je dis écologiste et non pas Europe Écologie Les Verts, parti que vous avez quitté il y a quelques années en 2013, c'est cela.
Exact.
En duplex depuis France Bleu Toulouse, et j'en profite pour remercier les équipes de France Bleu Toulouse, Majid Cherfi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes musicien, écrivain, chanteur du groupe Zebda et puis vous avez publié sur libération.fr, c'était le 15 novembre, une tribune intitulée « Carnage », une tribune dans laquelle vous dites que vous ne vous êtes jamais senti si français et on va y revenir. Troisième invité, Pascal Ory, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre prochain ouvrage à paraître le 1er janvier chez Gallimard s'intitule « Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire à paraître ». Et d'ores et déjà, dans ces 13 leçons d'histoire, on en trouve quelques-unes qui nous aident un petit peu à comprendre ce qui se passe en France depuis le début de cette année 2015. Je précise aussi que vous avez participé en 1984 à l'ouvrage collectif de Pierre Nora, « Les lieux de mémoire », tome 1, La République. Vous avez signé l'article sur la Révolution française. Alors, fond noir pour Charlie Hebdo et l'hypercachère, drapeau tricolore pour les attentats du 13 novembre. Est-ce que c'est une différence qui vous a marqué et est-ce qu'elle vous a étonné, Pascal Ory?
Je reste étonné, mais peut-être pas pour les raisons auxquelles vous pensez et auxquelles pensent ceux qui éprouvent un certain malaise. C'est-à-dire que il me semble que la France est plutôt atypique par rapport à beaucoup d'autres pays, beaucoup de démocraties libérales. Ma petite thèse, c'est que un pays de culture catholique et monarchiste a évidemment un rapport aux symboles nationaux compliqué et parfois complètement oppositionnel. Alors que aller dans des pays protestants, le Danemark par exemple, le culte du drapeau au Danemark est très impressionnant. Quand on ne connaît pas ce pays, on se demande pourquoi le drapeau est si fort. Aux États-Unis, le flag burning, brûler le drapeau américain, c'est quand même une des grandes provocations qui puisse exister.
Alors en France, c'est interdit d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Mais il y a un type de rapport qui n'est pas le même, à mon avis, dans des pays de culture protestante et, j'ajouterais, démocratique dans le cas des États-Unis, de culture protestante et monarchique comme le Royaume-Uni, où effectivement là aussi, vous avez un type de patriotisme symbolique qui est, me semble-t-il, plus enraciné que dans le cas de la France où, il ne faut pas l'oublier, la nation, on en reparlera sans doute, vient de la gauche. Les grands symboles viennent de la gauche, de la Révolution française. Mais bien entendu, sur deux siècles, ils ont été captés par une forme de droite, voire d'extrême droite. Ce qui fait que ça a suscité des rejets. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que ça devient plus compliqué, effectivement, et qu'il y a sans doute un retour. Alors, est-il provisoire? Personne ne le sait. Pas nécessaire d'être historien pour dire personne ne le sait. Mais enfin, il y a un retour à des formes de symbolisation, mais peut-être parce que la société a changé. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit simplement émotionnel. Mon petit pari, c'est que sans vouloir dire que nous sommes en train de devenir un pays protestant, nous avons un type de rapport qui est peut-être en train de changer.
Majid Cherfi, votre propre rapport au drapeau, justement, avant d'essayer de coller des interprétations, quel a été votre rapport au drapeau ce soir-là et dans les jours qui ont suivi?
Je veux dire que j'approuve tout à fait ce qu'a dit la personne précédente.
Pascal Horry.
Pascal
Horry.
Pascal Horry.
Je vous en prie, continue.
Je le rejoins dans le sens où, si vous voulez, la lettre que j'ai écrite est un tiraillement, si vous voulez. En réalité, pour qui veut entrer dans la nuance de ce texte, c'est je suis né en banlieue, j'ai vécu dans ces banlieues, voilà, ces endroits désertés par la République, et j'ai combattu cette République parce qu'elle n'existait pas en banlieue, mais moi, dans cette banlieue-là, j'étais un enfant gâté de la République. Ce qui veut dire que j'ai trouvé, moi, des réponses dans ce même endroit, mais je suis comme un arbre qui cache la forêt, parce que finalement, vous trouvez toujours un déshérité pour dire « la République m'a fait une place », et le problème, c'est qu'elle ne l'a pas fait à plein d'autres. Donc je suis à la fois l'enfant gâté et celui qui a beaucoup contesté la République.
Je vous cite, vous avez écrit notamment « Il y a des jours comme ça où même à Nard, on porte un drapeau parce que c'est tout ce qu'il reste à brandir après l'embrasement et il est bleu, blanc, rouge. Ouais. » Noël Mamère, votre propre rapport au drapeau, peut-être pour commencer cette émission également?
Moi, je rejoindrai l'analyse qui a été portée à la fois par Pascal Horry et par... Monsieur Cherfi, la première, c'est de dire que ce drapeau, nous l'avons combattu dans la mesure où il a été, où ces symboles, qui sont effectivement ceux de la gauche, ont été accaparés par la droite et l'extrême droite, et que le drapeau a souvent servi pour mener des guerres coloniales et pour mener des opérations qui ne visaient pas à défendre les valeurs que prétendaient incarner ces trois couleurs. Je veux dire aussi que les réactions que nous avons aujourd'hui après cette tuerie du 13 novembre, où le drapeau est exalté aussi bien en France que dans le monde, ça me rappelle d'une certaine manière ce qui s'est passé après le 11 janvier. C'est-à-dire, et Pascal Horry est en train de préparer un bouquin sur ce thème, que met-on derrière les trois couleurs et que mettait-on derrière « Je suis Charlie » ? Pas forcément la même chose, c'est ce que vient de dire Majid Cherfi. À savoir que dans ces... banlieue abandonnée de la République, un certain nombre ont réussi à s'en sortir et se retrouvent aujourd'hui dans le drapeau. Je ne suis pas sûr qu'au moment où je vous parle, tous ceux qui se considèrent comme discriminés et abandonnés se retrouvent dans les trois couleurs du drapeau. Après, la question du drapeau, ça pose un autre problème sur lequel nous reviendrons sans doute, qui est la question de l'identité et du patriotisme, encore un mot qui a été accaparé par l'extrême droite.
Liberté, égalité, fraternité. Le drapeau français, c'est son juste droit d'être là.
Comme ça, on montre que la France est unie, tout le monde est uni ensemble, même si on est musulman, juif, chrétien.
Le patriotisme n'appartient pas qu'aux Américains, il est aussi français.
Il faut vraiment montrer que la France est réunie, qu'on est tous ensemble.
C'est dommage qu'il faut qu'il y ait des événements comme ça pour le ressortir.
Saluer les couleurs tous les jours, ça fait un peu du bien.
On revient à des valeurs essentielles dans lesquelles on se retrouve, quoi. Liberté quand même, égalité, fraternité, solidarité. C'est pas honteux de dire on défend nos valeurs, on est français.
Quelques réactions de Français recueillies par ITélé, BFM TV, France 3 dans les jours qui ont suivi les attentats de Paris qui, je le rappelle, ont fait 130 victimes. Alors, certains y ont vu un réconfort, une fierté, l'affirmation d'une identité, l'expression d'une solidarité. D'autres y ont vu une intention guerrière. D'autres y voient uniquement l'emblème du Front National. Pascal Horry, comment est-ce qu'un symbole national peut contenir autant de significations différentes, voire opposées?
Parce que c'est sa fonction d'être simplificateur, ambigu éventuellement, et puis de charrier toute une histoire. Généralement, quand ces peuples ont 2, 3, 4 siècles d'usage, de brandissement, il faut préciser du drapeau qui est un emblème, j'allais dire textile, enfin visuel, mais et significativement, les personnes interrogées là à l'instant parlaient de liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est un emblème sonore, c'est le slogan. Slogan, c'est le cri de ralliement des clans écossais, donc c'est la devise. Et puis, vous avez la Marseillaise, hein, en Corse, à Wembley. Enfin, il se passe des choses absolument, enfin, je dis pas incroyable, en tout cas intéressante. Bon, soyons calmes, intéressante. Mais c'est l'ambiguïté, parce que le tricolore clairement était un signe de d'unité autour d'un projet révolutionnaire de clivant en 89, en 92. Entre parenthèses, ce sont des couleurs qui viennent des États-Unis, il faut quand même le rappeler, le tricolore vient des États-Unis, et en remontant plus haut, de la première grande expérience, au fond, libérale et presque démocratique, qu'on a complètement oubliée, qui sont les Pays-Bas, qu'on appelait les Provinces-Unies, ce sont eux qui ont proposé le tricolore bleu-blanc-rouge, enfin pour des raisons diverses. Donc, ça a une forte signification, mais prenez par exemple un pays aussi violemment secoué par l'histoire comme l'Afrique du Sud. Si vous regardez le drapeau actuel de l'Afrique du Sud, vous avez toute l'histoire de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que ce sont les couleurs de l'apartheid transpercées par une sorte de flèche zoulou et les couleurs de l'ANC qui les ont partagées en deux. C'est fascinant, quand on prend un petit peu de temps et qu'on regarde ces emblèmes, on y trouve énormément, énormément.
Donc, ce qui explique, Magid Cherfi, qu'on peut chérir ce drapeau, même si à une période de l'histoire, il a été associé dans la mémoire collective à Vichy, par exemple, au colonialisme. Si aujourd'hui, il est utilisé beaucoup par, et pas uniquement, mais beaucoup par l'extrême droite. Il faut l'utiliser malgré tout, c'est le sens de ma question. Magid Cherfi.
À qui vous la posez la question?
À vous, Magid Cherfi.
Oui, pardon. Alors, écoutez, moi, le drapeau, Alors, j'avais en tête depuis très longtemps, c'était bon. Ce drapeau bleu, blanc, rouge, il parle pas à un certain nombre de gens. Bon, moi, qui suis de la banlieue nord, de Toulouse, j'étais parmi ces jeunes à l'époque dits issus de l'immigration. Eh bien, par exemple, on aurait aimé, vous venez d'en parler, que ce drapeau bleu, blanc, rouge, en fait, il était insuffisant. Il y a ces trois trucs, ok, ces trois couleurs, mais pour qu'on ait une place, nous, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter un truc à ce drapeau, que la nation envoie des symboles envers ces jeunes issus des immigrations? Parce que finalement, aujourd'hui, en bout de course, il n'y a aucun signal de la nation qui va vers ces mômes-là.
Et donc le oui, allez-y, pardon.
Oui, voilà, il y a un manque de symboles plus universels ou plus multiculturels, parce que la société a changé, et donc est-ce que la nation ne devrait pas se mettre à jour en disant, bon, il y a plein de trucs qui manquent, un texte plus ouvert, plus multiculturel au niveau du texte de la Marseillaise, le drapeau y rajouter, comme ce que vous évoquiez, des signes qui parlent aux mômes venus d'Afrique, du Maghreb ou d'ailleurs, et revisiter comme ça une république moderne. Parce que, si vous voulez, l'idée du métissage, moi je prends le métissage en général, mais c'est pas le métissage pour le métissage, c'est parce que j'ai compris que le métissage, c'était la modernité. C'était quel monde pour demain? Quelle société française pour demain?
Et alors, quels seraient justement les signes que pourrait envoyer la nation à ces enfants, à ces jeunes-là, que vous appelez de vos voeux? Que peut faire la nation? Inventer d'autres symboles?
Non, je dirais garder les symboles historiques et les compléter. En fait, je verrais ça plutôt comme ça. Et si vous me demandez par quoi on compléterait, franchement, je ne m'aventurerai pas. Je crois qu'il faut que des gens se retrouvent de cultures différentes, de classes sociales différentes, qu'il y ait un débat. Qu'est-ce qui est jouable dans ce mouvement d'une société moderne qui désormais, et malgré elle, devient cosmopolite? Il faut que, voilà, il faut que le mot cosmopolite soit intégré dans tous ces mots que sont patrie, nation, France, etc.
Oui, vous voulez réagir, Noël Mamère?
Oui, je suis très heureux d'entendre Magid Cherfi parler de cosmopolitisme, parce que je pense que c'est le cosmopolitisme de notre société qui a été attaqué par les tueurs qui ne le supportent pas. Derrière le cosmopolitisme, il y a beaucoup de signes à envoyer, pas forcément à travers des symboles, parce que ce drapeau, il se suffit à lui-même. Mais en même temps, et ça pose la question, de quelle politique on mène pour protéger ce cosmopolitisme et les libertés qui l'accompagnent, c'est-à-dire un mode de vie, une façon d'être ensemble, et quelle politique on mène pour que tous ceux qui vivent sur notre territoire, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs, C'est ça la vraie question. Et le sentiment d'appartenir à une même communauté de destin. Donc ça veut dire que ça pose la question de l'égalité, des discriminations. Ça pose aussi une question qui a été abandonnée par la gauche, qui est celle du vote des étrangers non communautaires dans les élections locales, c'est-à-dire les parents de ces enfants qui sont français, nés français, de parents issus de l'immigration, qui n'ont pas le droit de contribuer à décider avec nous de leur destin local.
Pascal Horry, si on devait résumer justement la fonction, d'après ce que vous venez de dire ces quelques minutes, le drapeau a une fonction d'unité nationale, c'est ce qu'on entend.
C'est à ça qu'il sert. C'est lié d'ailleurs à l'invention de la souveraineté populaire, parce que s'il y a nation, c'est qu'il y a une expérience, disons, culturelle et politique antérieure, mais qui se trouve complètement modifiée par l'idée que désormais la souveraineté appartient au peuple. Et il y a souvent une erreur qui est faite, on pense que le drapeau tricolore, ce serait le blanc d'un drapeau monarchiste, et puis le bleu et le rouge de la ville de Paris. En réalité, la monarchie n'avait pas de drapeau unitaire parce qu'elle fonctionnait sur une autre base, vous aviez 36 drapeaux. Et le drapeau blanc, contrairement à ce qu'on croit, ça a été une réaction au drapeau tricolore. Il a fallu que les monarchistes s'inventent. Donc c'est vraiment un signe de modernité, un signe de démocratie que d'avoir un drapeau national. Ce qu'on finit par oublier parce que évidemment, j'allais dire, ce drapeau ou cette Marseillaise, ils ont été lessivés plusieurs fois. Mais si je peux me permettre, dans le sens du cosmopolitisme et de l'internationalisme, parce que on fait de l'internationalisme avec des nations, quand même, faut peut-être être élémentaire. Et d'autant plus qu'il y a d'autres expériences internationalistes qui ont été de tels échecs qu'il faut réfléchir à la dimension nationale qui subsiste dans l'internationalisme. Mais j'avais étudié jadis les trois commémorations de la Révolution française en 1889. C'est la République parce qu'on est tellement peu de républiques, en particulier en Europe, c'est la République qui nous distingue. En 1939, 150-naire, hélas, 1939, c'est la nation, parce que c'est une façon de dire, nous avons une autre conception de la nation que vous, les totalitaires, etc., en particulier les Allemands et les Italiens. Et puis en 1989, on se rappelle, le défilé Jean-Paul Goude, il avait une dimension cosmopolite, si vous vous rappelez.
Absolument.
Après Tiananmen, les tambours voilés, etc. Donc on sentait bien, alors je ne sais pas si on a fait beaucoup de progrès depuis, mais en 1989, on en était là, c'était les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ça incluait éventuellement le droit de vote des étrangers aux élections. Oui. Donc on sent quand même qu'une partie de la société va dans cette direction-là. Après, il y a des freins.
Alors c'est pour ce qu'explique Pascal Horry, c'est très intéressant parce que ça montre que ces trois couleurs, finalement, ce qu'elles incarnent, ce n'est pas figé. La société est en mouvement perpétuel.
Bah sinon, elle serait morte.
Tout à fait. Comme l'a dit Pascal Horry, vous voyez bien que ce symbole, il peut être celui du repli identitaire comme celui de l'ouverture. Qu'est-ce qu'il y a derrière ceux qui se drapent dans notre étendard après le 13 novembre? Il y a forcément deux déclinaisons de l'identité. Ceux qui se reconnaissent dans trois couleurs qui sont cosmopolites, on va dire, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, et ceux qui vont se réveiller beaucoup plus vite qu'on ne le pense, et qui vont nous parler de patriotisme et d'identité construite uniquement sur des héritages qui ne sont pas, qui sont ce qu'on appelle les racines judéo-chrétiennes. Et c'est très intéressant en ce moment, il y a une pièce de Joël Pomeral qui s'appelle Saïra au Théâtre des Amandiers, qui montre très bien comment est né ce drapeau, comment entre les députés de la noblesse, du clergé du tiers-état, le peuple, les comités de quartier, s'est construit peu à peu cette souveraineté populaire qui a fait nation avec cette désobéissance originelle des états généraux qui ont été cassés par les députés du tiers état pour créer l'Assemblée nationale. Ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait en plusieurs mois avec des crises, avec des hésitations, avec beaucoup d'allers et retours d'ailleurs de la part des responsables politiques et de ce peuple qui à quelques moments a été l'objet de barbarie d'une certaine manière. Ça s'est produit après avec 1793, mais il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que le drapeau français, ce n'est pas le symbole d'une unité qui serait complètement figée, c'est le signe, à un moment donné, de l'état d'une société. Et donc on peut y mettre ce qu'on veut dedans.
Majid Cherfi, je vous cite à nouveau, vous dites « Il y a des jours comme ça où on a envie d'assumer tout, d'assumer les débats foireux de l'identité nationale, de dire oui à la France, quelle qu'elle soit, de tout assumer, Pétain et Jean Moulin, le lâche et le héros, l'orfèvre et le bourrin, les trois comme l'iconoclaste. » Ce sont des paroles très fortes. Quelles ont été les réactions à la parution de votre tribune? Est-ce que vous avez reçu des critiques, des objections?
Oui, bien sûr que beaucoup de mes proches n'ont pas kiffé l'histoire, parce que alors moi je fais partie de ces mouvements, enfin j'étais compagnon de route de partis politiques gauche, PS extrême gauche, dans une philosophie internationaliste, et je perds, oui, vous parlez des gens, et donc voilà.
Qu'est-ce que vous vouliez dire en mettant dans ces quelques phrases l'ensemble de ce que peut être la France dans ses côtés sombres et dans ses côtés lumineux? Quelle était l'intention du message?
L'intention, alors évidemment, alors il faut imaginer que ça a été chez moi émotionnel. J'ai écrit ça dans la soirée, cette fameuse soirée des attentats, et tout à coup, dans mon émotion. J'ai eu cette espèce de sentiment qui était, mais putain, il faut leur dire que c'est le plus beau pays du monde, où je rêve. Puis je me suis dit, mais je l'ai jamais dit. Puis je me suis dit, mais les gens autour de moi ne le disent jamais. Est-ce qu'il y a aucun moment où on peut dire, nous qui sommes, disons, de gauche, progressistes, internationalistes, donc, on peut pas dire, c'est le plus beau pays du monde. Mais à ce moment, dans mon moment d'émotion, moi, je me le suis dit, avec cette réserve. C'est pas le paradis. Je sais de quoi je parle. Je suis fils d'Algérien et mon père a vécu comme une bête de somme pendant 60 ans. Et lui-même me disait, ce pays m'a donné du pain, alors ferme ta gueule. Il me disait, ferme ta gueule, parce que j'allais contester la République dans des manifs ou autres marches des beurs. Et je lui disais, mais t'as vécu comme une bête de somme. Et donc c'est tout ça qui est revenu en même temps. Lui qui a pensé la France comme le plus beau pays du monde, quand moi je me suis dit, mais elle a si peu donné aux enfants de l'immigration, et elle a tout donné et elle a rien donné. Et donc j'ai voulu dire, j'ai envie d'être toute cette France-là, parce que mon père qui en 60 ans n'a jamais appris à lire, à écrire, la République ne lui a jamais donné cette possibilité-là. Et moi, Majid, issu des quartiers, elle m'a tout donné, et même au-delà de ce que j'eus pu espérer de ma vie.
Pascal Horry, commentaire sur ce que vient de dire Majid Cherfi.
Ça résume assez bien les moments d'identification, parce que là, on voit bien qu'il y a eu... et d'ailleurs, il faut situer ça, en effet, comme vous l'avez fait par rapport à janvier, il y a déjà des drapeaux tricolores, ça m'avait frappé en janvier, dans les marches républicaines. Et puis un discours sur les flics, par exemple, qu'on n'aurait pas imaginé dans certains milieux. Bon, donc ça commençait à bouger. Novembre, on voit bien la différence, c'est-à-dire que là, ce sont moins des vedettes, au fond, qui ont été touchées. Enfin, je parle de Charlie, pas de Hyper Cacher, c'est une autre signification. Et c'était théoriquement des anonymes, mais à participant d'une culture jeune, d'une culture du cosmopolitisme. Un concert rock, le 10e, 11e arrondissement, c'est quand même... Bon, c'est pas vraiment la société de Madame Le Pen, hein. Et c'est cette société-là qu'on a quand même agressée. Donc là, je pense que ça a amené effectivement une réflexion sur les valeurs. On a beaucoup parlé de valeurs déjà, hein, liberté d'expression en janvier. Et moi, j'insiste dans le triptyque sur les devises liberté, égalité, fraternité. J'ai l'impression que des trois éléments de l'identification symbolique française, c'est peut-être celui qui est peut-être le moins contestable. On peut toujours tordre le nez, par exemple, sur fraternité, quoi, comme mon avis, sur sa capitale. Et ça, c'est l'apport de 1848 par rapport à 89. Mais en tous les cas, la réflexion sur les valeurs, moi ça me frappe quand même, a été mise sur le tapis dès le 11 janvier, et elle est plus que d'actualité que jamais en novembre, ça c'est clair.
C'est justement d'ailleurs ce que réclame ce qu'on appelle la génération Bataclan aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous regardez tout ce qui est inscrit sur les lieux des meurtres, des assassinats, vous voyez que tout ce qui est écrit, ça dit je n'ai pas peur, si vous avez semé la terreur, nous sommes les graines de l'espoir. Donc on n'est pas dans une société qui est en train de se déliter, de se replier sur elle-même. Peut-être que certains politiques ont tendance à vouloir exacerber ce mauvais côté de la politique, mais en même temps, dans la société, on voit bien qu'il y a une ferme volonté de défendre ce qui constitue nos valeurs. Et nos valeurs, c'est effectivement liberté, égalité, fraternité, mais ce ne sont pas des valeurs vécues comme entre soi, sont des valeurs à vocation universelle. Et c'est en ce sens d'ailleurs que c'est très positif. Et il va falloir se battre dans les semaines qui viennent, parce qu'une fois l'émotion passée, Évidemment, les débats vont revenir au galop et il faudra se battre contre tous ceux qui défendront cette identité malheureuse, ces valeurs qui sont menacées par des hordes d'islamistes qui viendraient envahir notre pays et assigner, comme on peut aujourd'hui avec l'état d'urgence assigner à résidence pour un simple comportement, assigner les Français musulmans à leur seule religion. Je pense qu'ils sont d'abord des citoyens, c'est ce qu'ils sont en train de dire, et montrer que l'identité, elle n'est pas composée, elle n'a pas qu'une composante, elle en a plusieurs. C'est ce que dit très bien d'ailleurs le prix Nobel Amartya Sen dans un bouquin très intéressant qui s'appelle « Identité et violence ». Oui, l'identité, ça peut être le support de la générosité, de la tolérance et de l'ouverture, mais ça peut être aussi la matrice de toutes les violences.
J'en profite, Noël Mamère, pour citer le livre que vous aviez fait paraître en 2014 et que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, « Contre Zemmour, réponse au suicide français ». C'était paru au Petit Matin.
Marseille, où au printemps 2007, les socialistes avaient chanté ensemble pour la première fois la Marseillaise et repris le drapeau tricolore, celui que les socialistes n'osaient pas revendiquer, tellement ce drapeau avait été marqué par la droite et par le Front National. Et aujourd'hui, si les socialistes se sont réappropriés non seulement la Marseillaise, mais aussi la nation et le drapeau tricolore, parce qu'il n'y a pas d'opposition entre le drapeau rouge des luttes ouvrières et le drapeau tricolore, celui de notre nation. Au contraire, l'un ne va pas sans l'autre.
Majid Cherfi l'évoquait dans son témoignage tout à l'heure. Là, on vient d'entendre Ségolène Royal, c'était en février 2012. Est-ce que c'est pas évident d'être à la fois de tradition idéologique de gauche et de se revendiquer patriote, Noël Mamère ?
Moi, je ne sais pas très bien ce que veut dire patriote. J'entends les responsables du Front National le répéter à l'envi. Ils vont d'ailleurs recommencer à le décliner. Donc j'ai entendu cet extrait de la déclaration de Ségolène Royal. Je la prends avec une certaine distance parce que, comme l'a dit Pascal Horry tout à l'heure, le drapeau tricolore, la nation, c'est un des socles des valeurs défendues par la gauche. Mais ça a été accaparé par la droite et l'extrême droite, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas une raison suffisante pour exalter le patriotisme, parce que le patriotisme, il a conduit à des situations historiques absolument cataclysmiques c'est dans le nom du patriotisme qu'on a déclenché la plus grande boucherie de l'histoire avec la guerre de 14 et d'ailleurs avec l'Union sacrée qu'on est en train de nous ressortir, qui n'est rien d'autre qu'une défaite de la pensée. C'est ainsi qu'au nom de l'Union sacrée, on a donné les pleins pouvoirs à Guy Mollet, ça a conduit à la guerre d'Algérie. Donc je me méfie de toutes ces déclinaisons qui cachent en fait une absence de projet. Parce que je pense qu'un drapeau et un mot, ça ne suffit pas à définir ce que les sociologues et les historiens appellent un récit. Et aujourd'hui, nous voyons bien que nous sommes confrontés à l'absence d'un récit qui serait produit, qui soit capable d'attirer ceux qui aujourd'hui veulent une autre société, une société plus ouverte, plus tolérante, garante de ses valeurs et de ses libertés fondamentales. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans le champ politique de force capable de produire ce récit. Alors, l'État islamique et les autres, ils s'engouffrent dans la brèche.
Majid Cherfi, le patriotisme, c'est un terme que vous reprenez, que vous revendiquez ?
Non, j'ai envie d'être dans la nuance... Excusez-moi. De mon prédécesseur.
Oui, Noël, ma mère.
Noël, pardon, Noël. Avec toute l'affection que j'ai pour toi, bien sûr. Pardon, Noël. Je veux entrer dans la nuance de Noël, ma mère. C'est, si vous voulez, moi, quand je dis oui, le drapeau bleu, blanc, rouge, évidemment que moi, mon idéal, c'est qu'il soit transpercé de toutes les cultures qui font la France d'aujourd'hui.
Mais au-delà du drapeau, vraiment le patriotisme, est-ce que vous vous sentez patriote depuis 10 jours, Majid Cherfi ?
C'est un patriotisme, si vous voulez. Le mien, il est si la France, cette France de la liberté d'expression, des lumières, cette France-là est en danger. J'ai eu ce sentiment l'autre soir, patriote, je prends les armes et je vais au front. Je ne le suis pas tant que ça, parce que pour moi, la France n'est pas en guerre. Elle est en danger, et il faut se lever pour la défendre. C'est une chose. Vous voyez, c'est un patriotisme. si ça, quand ça vaut le coup. Je veux dire, être patriote tout le temps, moi, je, dans ma tête, je sais pas ce que ça veut dire, parce que j'ai la France dans mes entrailles, ça me suffit. J'ai pas besoin d'outre mesure être patriote.
Pascal Horry, il y a quelque chose d'intrinsèquement martial dans le patriotisme ?
Ah non, pas du tout, me semble-t-il. C'est un terme plus neutre que nationalisme, qui se veut plus unificateur. Et je dirais que le patriotisme, c'est plutôt fonctionnel. Dans des périodes de crise, qu'on sent une sorte de solidarité autour de valeurs qui sont supposées, à tort ou à raison, identifier le pays. Par exemple, un pays agressé. Moi, je pense à l'Angleterre de 1940. C'est du patriotisme. Bon, donc, après, les récupérations, hein, c'est comme nation. Mais, alors que nationalisme, ça a été inventé à la fin du 19e siècle, par l'extrême droite pour cliver, en disant les vrais nationaux, c'est nous, alors que l'extrême droite venait d'ailleurs de l'antipatriotisme et de l'antinationalisme. Ça, c'est un point important. Je crois que le patriotisme, ça correspond bien à ce que nous vivons en ce moment. Alors, et là aussi, il faut
alors
se méfier de la captation.
Mais
la
comment captation vous expliquez les voix dissonantes qui disent qu'il y a quelque chose de martial, de guerrier?
C'est le contraire qui serait surprenant. C'est-à-dire que, compte tenu du fait qu'on vient de très loin dans la récusation, de la récupération par la droite ou l'extrême droite de ces symboles, et du patriotisme, et même du mot patriotisme, voire du mot nation, eh bien, il serait étonnant qu'il n'y ait pas encore des voix qui expriment un malaise. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point ça a changé par rapport à la situation dominante d'il y a quelques années. Et je rappelle quand même, parce que votre question avait un sens tout à l'heure, quand vous disiez, à propos de Ségolène Royal, le rouge, le tricolore. Mais le tricolore, c'était la gauche. Là, la République a été gouvernée par la gauche. Pas à partir de 36, j'ai un peu travaillé sur 36. Non, elle a été gouvernée par la gauche dès les débuts de la Troisième République, à partir de 1877-79, par des républicains gambettistes, ensuite par des radicaux qui étaient absolument tricolores. Et puis arrive le mouvement ouvrier, mais le mouvement ouvrier, ce n'est qu'une partie de la gauche. Et d'ailleurs, tout le mouvement ouvrier, c'est pas forcément reconnu dans le drapeau rouge. Et les socialistes, ça faisait longtemps qu'ils avaient abandonné le drapeau rouge. Ils avaient la rose rouge. Donc, non, le tricolore, c'est quand même très identifié à tout un combat de gauche. Mais il y a eu aussi des récupérations par la droite. Et quant au récit, effectivement, on peut penser qu'il y a une crise du récit. Mais entre parenthèses, elle est assez universelle. Hein, il n'y a pas que la France. Mais il me semble que, puisqu'on évoquait, Noël Mamère, à juste titre, évoquait des monuments spontanés qui sont nés, hein, devant le Bataclan, etc. Moi, ce qui me frappe, parce que le monumental, le rituel, ça fait partie aussi des symboles. Hein, c'est le triptyque monument, rituel, emblème. Là, on parle des emblèmes. Mais prenons le monument, ces monuments spontanés qui sont à la fois le comble de l'individualisme. Chacun apporte sa fleur, sa bougie, son petit dessin, etc. Et en même temps, ça crée du collectif. Et ben ça, c'est une façon, à mon avis, de composer un récit. Dans une société individualiste, qui a des tendances libérales-libertaires, d'ailleurs il faudrait même insister sur le tiret entre les deux, et ben ça aboutit à ça. Et je trouve que c'est très émouvant, c'est sans doute plus émouvant que le Panthéon.
Alors, union sur les symboles, mais sur le message que vous portiez tout à l'heure, Noël Mamère, Pascal Horry dit quelque part, la gauche a perdu quelque chose de la nation et du récit. Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche peut reconquérir le récit alors, patriote n'est pas le mot qui convient, mais d'appropriation des éléments de la nation?
Je ne sais pas si elle est en mesure de le faire. Je ne suis pas convaincu que dans l'état actuel de la gauche, elle soit capable de produire ce récit dont vous parlez. Ce à quoi j'assiste et ce que j'ai constaté depuis le 13 novembre, en particulier le 19 novembre avec la prolongation de l'état d'urgence, je pense que la gauche aujourd'hui, elle est dans une spirale infernale qui l'a conduit plus au tout sécuritaire et a ajouté de la peur à la peur, que dans une position, ou plutôt une posture politique qui consisterait à dire « Nous n'avons pas peur, nous allons défendre les libertés fondamentales, c'est notre meilleur bouclier contre ceux qui veulent tuer notre modèle de société. » Et moi, je ne suis pas d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit « le pacte de stabilité doit s'effacer derrière le pacte de sécurité ». Moi, je dis « le pacte de sécurité doit s'effacer derrière le pacte de démocratique ». Je ne dis pas que la sécurité n'est pas nécessaire, mais lorsqu'elle entre en conflit avec la question des libertés et des valeurs que nous voulons défendre, forcément, on s'interdit, la gauche s'interdit toute production d'un récit qui pourrait faire adhérer ceux qui aujourd'hui ne veulent plus d'une France qui est marquée par le seul horizon du libéralisme, du fric et des revenus à court terme, celle qui produit le réchauffement climatique, l'exploitation des ressources, les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. Tout ça, c'est quand même, ça rentre dans l'esprit des gens, dans l'esprit collectif, ça rentre comme un poison. Et donc, si on veut extraire ce poison de l'esprit des Français et au plan international, il faut s'organiser pour produire ces contre-récits qui soient capables de structurer nos sociétés de demain qui sont toutes dans l'incertitude.
Majid Cherfi, vous dites il y a des jours où on aime ce pays même quand il a tort. Est-ce que c'est pas un petit peu la fin de l'esprit critique dans cette déclaration d'amour au pays, la fin du débat démocratique, l'aimer même quand il a tort?
Je voudrais compléter ce que disait Noël. À propos du Parti Socialiste, je dirais ils ont perdu la bataille à leur premier jour arrivés au pouvoir au début des années 80. Il y avait ces fameuses marches des beurs et tous ces mômes issus de l'immigration ont marché dans la rue. On est venu, on demandait l'égalité des droits. On a reçu une carte de résidence de 10 ans. Je ne sais pas si vous voyez l'année-lumière, l'écart. Vous suggérez un certificat de bienvenue. On vous dit, bon, tu pourras rester là une dizaine d'années. Et, dans la même période, le droit de vote des immigrés, qui aurait été un signal vis-à-vis des mômes en disant, vous voyez, vos parents, on les fait rentrer dans la grande famille. Alors, on nous a dit que les Français n'étaient pas prêts. 30 ans après, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui à propos du vote des immigrés? Les Français ne sont pas prêts. On comprend pourquoi il y a une telle fêlure entre les uns et les autres.
Mesdames et messieurs, qui représentez la nation, de la majorité et de l'opposition, soyons dignes, à la hauteur des Français, soyons des patriotes, rassemblés pour abattre le terrorisme.
C'était donc, vous l'avez reconnu, Manuel Valls, le Premier ministre, déclaration devant l'Assemblée nationale mardi dernier, le 17 novembre, des patriotes rassemblés. Je suppose que vous ne faisiez pas partie des gens qui applaudissaient à ce moment-là, Noël Mamère.
Non, je n'ai pas applaudi Manuel Valls, je n'ai pas voté la prolongation de l'état d'urgence, qui dissimulait d'ailleurs le vrai projet du gouvernement, à savoir le durcissement de l'état d'urgence. Donc on a fait avaler la couleuvre avec le leurre de la prolongation de cet état d'urgence. Non, pourquoi? Parce que je pense que cette exaltation du patriotisme et de l'union sacrée, ça ne peut pas produire des politiques dont on a besoin et que vient d'évoquer notre ami Mazir Cherchi. Parce que il n'y a pas que la question du droit de vote des étrangers. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que dans notre pays, quand on se prénomme Malek ou Tariq, on a 8 fois moins de chances que si on se prénomme Noël ou Daniel de trouver un boulot. Donc c'est ça la réalité devant laquelle on est confronté. Et si on veut que chacun se sente français ou résident français appartenir à une même communauté de destin, il faut mettre en œuvre des politiques qui sont autre chose que de la communication, autre chose que de l'affichage et autre chose que le Premier ministre qui se transforme en premier flic de France avec sa matraque pour nous expliquer qu'il va combattre le terrorisme. Ça veut dire quoi? C'est la même rhétorique que celle qu'a utilisée Bush au moment d'envahir l'Irak. C'est la même chose. Ça aboutit à quoi? Au Patriot Act. C'est exactement ce que propose le Président de la République avec la constitutionnalisation de l'état d'urgence.
Pascal Horry, vous avez parlé tout à l'heure de l'unité dont le symbole était porteur. Mais là, est-ce que le patriotisme n'est pas aussi facteur de division et de conflit?
Écoutez, je ne crois pas que le peuple, ça existe autrement que comme une sorte de référence idéale à partir de laquelle on va construire des institutions politiques démocratiques. Mais jamais 100% d'une communauté n'est derrière quelque valeur que ce soit. En 1944, vous imaginez que les collabos applaudissaient l'arrivée des Américains. Donc, faut faire très attention. La question est de savoir dans quel sens va une société. Ce que je constate quand même, mais ça, c'est le terrorisme qu'il faut interroger, c'est qu'on est en train d'intégrer des réflexes, disons, sécuritaires, et que ça a toujours été, d'ailleurs, la rançon du terrorisme. Le terrorisme s'est toujours traduit par un renforcement. Regardez, l'échec des premiers terroristes modernes, les nihilistes russes, ça a été le renforcement atroce de l'autoritarisme russe. C'est ça qui nous pend au nez.
Il faut nommer son ennemi et pas dire les terroristes. Il faut dire qui est en face de nous et qui on doit combattre. Et
bien, ce sera le mot de la fin. Merci Noël Mamère, maire de Bègles et député de Gironde. Merci Pascal Horry, historien, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci à vous Magid Cherfi, chanteur du groupe Zebda en duplex des studios de France Bleu Toulouse, dont nous remercions les équipes. Commentaires, réécoute, podcast sur notre site franceculture.fr. Du grain à moudre, une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richer, Cyril Baer, Nafsika Papanicolaou. Réalisation Jean-Christophe Francis. Prise de son ce soir, Jacques Hubert. Demain, vous retrouverez Hervé Gardette. Faut-il donner du travail à tout prix? C'est la question dont nous débattrons. En attendant, il est 19h passé de 30 secondes, pardonnez-moi. Tout de suite, c'est ping-pong. Mathilde Serrel, Martin Kénéen. Bonsoir à vous.